Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Mary, I've been thinking. Can we move the Japanese ambassador to 4 o'clock tomorrow?
Certainly, sir.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast. À mes côtés dans ce studio, Mehdi et Aurélien. Comment ça va les mecs?
Eh ben ça va et toi?
Super.
Vous entendez cette musique derrière? Dans quelques jours c'est Noël et comme chaque année, c'est l'épisode spécial Christmas avec deux abonnés. Deux abonnés qui ont été tirés au sort sur Insta et qui sont avec nous ce soir. Je vais commencer avec Anaïs. Comment vas-tu Anaïs?
Bah ça va super et toi?
Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Bah du coup c'est Anaïs, j'ai 24 ans et je prépare le concours pour être professeur de français.
Professeur de français?
Ouais.
Je suis un peu épaté. Mais attends, mais pour quelle classe alors? École primaire, collège,
non,
lycée?
Non, le secondaire.
Alors le
Donc,
secondaire c'est
lycée,
quoi?
Lycée, collège.
Ah ouais quand même.
Ah ouais quand même. Ah,
c'est du haut niveau là.
Alors est-ce que tu vas être une prof sévère?
Non, je vais être la prof cool.
Ah ouais?
J'espère.
Ouais mais attention parce que la prof cool on fout la merde en cours.
Ouais non, qui sait se faire respecter.
Et alors comment on fait pour se faire respecter par les élèves?
Tu montes des films.
Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. La prof sympa.
Ouais, voilà.
Ok, d'accord, voilà. D'accord. C'est un peu comme le système des cartes à la maternelle. T'auras une carte.
Exactement.
Ok, bah,
la bonne image.
Peut-être, ouais. Et donc, alors, ça vient d'où cette envie d'être prof de français?
En fait, j'aime la littérature.
Okay.
Et ça mène assez facilement au partage de la passion. Quoi.
Et c'est dur de devenir prof de français?
Bah, c'est des longues études. Ouais. Mais le concours est plutôt accessible, quoi.
Ok, c'est très bien, si je difficile. Note. À tes côtés, Anaïs, on a un autre abonné qui s'appelle Julien. Comment tu vas, Julien?
Ça va bien, et toi?
Pareil, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors, je m'appelle Julien, je vis à Montréal la moitié de l'année, sinon je
attends,
vis...
Attends, tu vis à Montréal?
Ouais.
Superbe, bravo. Mmh. Mais attends, mais oui, d'accord, donc là, t'es à Paris pour les vacances.
Parce que j'ai quitté ma femme.
Ah oui, tiens.
Ah ouais.
Non, c'est vrai ou pas?
Ouais.
Ah, superbe, c'est en premier degré, c'est pas une vanne. D'accord. Tout de suite, c'est les problèmes perso.
Et pourtant, j'allais dire, il est beau gosse. Mais alors, je comprends pas pourquoi t'as quitté.
Ah oui, Julien est beau gosse.
Merci. Faudrait le dire à ma mère, c'est grâce à elle.
Ah.
Mais donc voilà, j'habite à Paris, entre Paris et Montréal, et je suis designer graphique, en événementiel principalement, et aussi je suis créateur de contenu niveau manga papier.
Oui, alors quand tu as été tiré au sort, j'ai vu ta page, tu parles de manga sur ta page.
Ouais, voilà, tout
okay.
à fait.
C'est une passion, j'imagine.
Ouais, c'est une passion, et j'avais pas grand monde avec qui en parler durant la Covid, ou le Covid, ça dépend comment on le dit, j'ai décidé de créer du contenu par rapport à ça, et j'adore.
Alors moi je m'y connais grave pas en manga, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui s'est démocratisé en mode... bah, avant c'était vraiment un truc de niche et ouais. Maintenant tout le monde consomme du manga quoi.
Ouais, avant t'étais l'autocar de la classe et maintenant t'es le beau gosse.
Après ta
classe.
Femme t'a quitté donc attention. ça continue
et...
apparemment.
Non, mais il est en méga forme pour cette oui. Moi j'étais au fond de trou. Oui, tranquille, on fait un petit podcast
oui,
tranquille
et puis. Avec Mehdi on a déjà été quitté, on était au fin fond du trou, Mehdi.
Ah, toi je t'ai vu prendre des médocs. <c'est> là, hein.
Oui, lui il est en pleine forme. C'est quoi ton secret à toi?
Avoir une séparation qui se fait bien.
Ah. Ou alors, elle t'a quitté parce que tu l'as trompé avec 15 meufs et puis voilà quoi. Ça,
non,
c'est pour ça que t'es en pleine forme en
non,
fait.
Non, absolument pas.
Très bien, et bien écoute, bravo Julien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler d'un film dans cet épisode qui a été souvent demandé et qui fête ses 20 ans puisqu'il est sorti en 2003. Un film qui est devenu un classique de Noël, Love Actually. Réalisé par Richard Curtis, à qui l'on doit les scénarios de Coup de foudre à Notting Hill, Quatre mariages et un enterrement, le journal de Bridget Jones ou encore Good Morning England, Love Actually est un film choral dans lequel plusieurs histoires d'amour s'entrecroisent à l'approche de Noël. Au casting, on a tout ce qui se fait mieux en Angleterre, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Chiwetel Ejiofor ou encore Martin Freeman. Vraiment les Avengers des acteurs britanniques. Ce film a fait un carton, que ce soit au niveau critique, public et financier, puisqu'il a rapporté 247 millions de dollars pour un budget de 30 millions seulement. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Dans quelles conditions l'avez-vous vu? Et je vais commencer avec Anaïs.
Alors la première fois, c'était lors d'une discussion avec des amis. je me suis rendu compte que j'avais jamais vu Titanic. Enfin, okay. Ils me l'ont fait remarquer. Et s'en est suivi une énumération de romances que j'avais jamais vues non plus, dont Love Actually. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape la chose en regardant Love Actually.
Alors, j'ai une bonne question pour toi. Quand tu as dit à ses amis que tu n'avais pas encore vu Titanic, etc., est-ce qu'ils ont été un peu relous en mode « Attends, tu n'as pas vu ces films, tu vois ?» Ils ont fait, est-ce qu'ils
carrément.
Ont ça
carrément. Okay, c'est la première réaction. Ouais. C'est, comment tu peux manquer le plus grand film de l'histoire?
Ouais, mais en fait, moi, je trouve ça assez cool en général quand il y a ça, parce que j'ai plus tendance à dire aux gens, bah, regarde, c'est super en fait. Tu vas découvrir Titanic. Ouais. C'est trop bien. Ah, tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu as vu Love Actually. Est-ce que tu as aimé alors la première fois?
Ouais, carrément. Carrément. Bah, c'était pas le genre de film que je regardais, parce que bah, j'ai grandi avec deux grands frères, donc c'était des films d'action que je regardais. Là, c'était, on va dire, époque collège, quoi.
Et regardez quoi comme film d'action tes grands frères?
Ouais, bah, clairement tous les Jason Statham, les Die Hard, les films.
D'accord. Quoi. Et donc pour une fois, c'était un peu de romance dans un monde de brutes.
Exactement.
Okay. Et donc t'as aimé ça?
Ouais, c'était cool.
Julien, même question pour toi.
Alors moi, ça a été la première fois que je suis venu à Montréal. C'était il y a 10 ans parce que je venais d'aménager dans une coloc avec une fille avec qui je m'entendais pas beaucoup. Et le soir, j'avais pas grand chose à faire, donc j'ai enchaîné pas mal de films. Et Love Actually, vu que c'était la période de Noël, je me suis dit qu'il fallait regarder un petit peu des films de Noël. Et ça s'est passé comme ça, et c'était grave cool.
Ok, Aurélien.
Je sais plus trop, je pense que c'était un délire vidéoclub un peu. Je l'ai pas vu au cinéma, je me rappelle pas de l'avoir vu au ciné.
Ouais.
Mais je pense que ça fait partie. Tu sais, moi j'avais un rituel, c'était tous les dimanches soirs, on faisait comédie romantique avec ma meuf. De l'époque. Et donc j'allais au vidéoclub chercher un petit DVD genre que j'avais pas vu dans l'esprit et tout ça. Et je pense que j'ai vu Love Actually à ce moment-là. Et je mélangeais beaucoup avec les autres films où il y a eu Grant en vrai.
Ouais. Souvent. Parce que c'est un peu toujours le même rôle en fait. Finalement.
Bah lui ouais. Après je me rappelais pas qu'il avait autant façon de jouer, personnages. Ouais, je me rappelais pas que c'était un film aussi choral. C'est quand je l'ai revu après plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 100 personnages et qui se croisaient de temps en temps. Mais en fait t'as vraiment 100 histoires différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et donc je me rappelle plus exactement à quel moment je l'ai vu. Je pense que je mélange pas mal.
Ok, Mehdi.
Moi pas. Pur opportunisme, je savais que c'était un film qui plaisait énormément aux filles. Et je me suis dit, il faut que je le regarde pour que je puisse avoir un sujet voilà, un peu en commun. Et je me rappelle, moi, c'était la BO. Je l'avais gravé, la BO.
Ah oui, tiens.
Ouais, parce que la BO est pas mal.
La BO est sublime.
Ouais, et je sais que...
Ah ouais,
ouais.
Ah ouais,
bah, la BO, alors, moi, j'ai revu le... Alors, je vais enchaîner sur moi, je l'avais vu au cinéma, ce film. Et ça arrivait vraiment dans une époque où...
Avec une meuf.
Non, c'était pas avec une meuf, mais je me souviens que je l'ai vu hyper jeune et je me souviens que.
Non, mais tu l'as pas vu tout seul, c'est, je te vois, à l'époque, c'est impossible à l'époque. Donc t'es avec quelqu'un,
oui,
soit ta mère,
avec
soit.
Une meuf. Non, pas avec ma mère.
Ah, hein, je sais pas.
Je suis pas allé voir Love Actually avec ma mère, arrête. La honte, franchement. Non, et en fait, oui, je devais être avec un date, peut-être. Mais en fait, c'était vraiment une époque où j'étais hyper romantique. Tu t'en souviens, Mehdi, ma période romantique.
Très agaçant. Hyper mielleux.
T'étais un peu être maudit, en fait.
Non, mais j'ai une période où j'étais très, très lover. Lover romantique, et puis la vie te donne des coups de fouet, et puis tu sais, c'est un peu de lettres. Mais je pense que je suis toujours un romantique dans l'âme. Hein. Ça t'agaçait, ça, Mehdi, hein. Mais non, toi aussi, tu étais un peu romantique.
Bah oui, oui.
Bah, arrête, t'avais des livres de poèmes, toi, quand
tu étais. Bah oui, t'avais des cheveux longs, des livres de poètes et tout, machin. Non, mais t'es romantique. Et non, et en fait, effectivement, Mehdi a raison, la musique est trop bien, et j'ai revu le film, figurez-vous, pas plus tard que cet après-midi, ça faisait peut-être 12-13 ans que je l'avais pas vu.
Ah ouais.
Et j'ai trouvé ça toujours aussi efficace. La musique de Craig Armstrong est vraiment super. C'est-à-dire que moi aussi, j'écoutais la BO Mehdi quand le film est sorti. Et il y a plein de musiques comme ça qui me sont revenues en tête. Et vraiment des musiques qui m'accompagnaient dans cette période romantique de ma vie. C'est grâce à ce film que j'ai découvert l'artiste Joni Mitchell. Parce que Joni Mitchell a une place assez importante dans le film. Dans une des histoires qu'on peut avoir. Ouais. Et, enfin, qu'on peut voir. Et voilà, j'ai trouvé ça super cool. Après, j'ai des petites notes d'observation. C'est assez drôle parce que finalement, la scène culte de ce film, ça va être la scène des pancartes. C'est vraiment un truc qui est resté dans l'imaginaire collectif.
Ça et la danse de Hugh Grant.
C'est ça, et la danse de Grant. Mais ce qui est marrant, c'est que le truc des pancartes, bah, je me suis pas dit ça à l'époque, mais aujourd'hui, je me dis, bah, c'est un méga coup de pute, son pote. Là,
bien sûr. Bien sûr.
Non, mais comment je me suis pas dit ça à l'époque, je me souviens, je me disais, oh, c'est trop mignon ce qu'il fait. C'est trop mignon ce qu'il fait. Mais en fait, c'est comme si toi, Mehdi, t'avais une meuf, tu viens de te marier, et le lendemain, je monte des pancartes, genre, je suis une meuf de toi, je suis un méga bâtard, en fait.
Tu l'as déjà fait, en fait.
À la fin,
c'est vrai.
À la fin, il le dit, il fait genre, ah ouais, ça y est, j'arrête. Bon, allez, j'arrête. C'était la dernière fois, j'arrête.
Ouais, mais il a eu un petit bisou quand même.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bisou, t'as raison,
Julien. Ouais,
ouais. Bah, attends, mais
c'est un forceur. C'est un forceur, faut dire la vérité.
Bon, non, donc, ce petit bisou là, c'est trompé.
Ah, bonne question, Mehdi.
Clairement.
Selon Anaïs, c'est oui, Julien.
Bien sûr.
Ah, Julien, il
est très.
Julien, il est très au fait de ça. Il était là, il serrait le canapé sous le poing là. Bien sûr. Aurélien, c'est trompé ou pas?
Bah oui. Mais je trouve que concrètement, toutes les histoires qu'il y a, il y en a la moitié sont toxiques maintenant en 2023. En vrai, dans,
ouais, oui, parce qu'ils mettent les petites musiques là, de Kim Armstrong, de Creation, trop mignonnes derrière, mais c'est des enculés.
Souvent, les mecs, ils font les trucs bizarres. c'est pas terrible.
Non, et il y a même un autre truc, c'est qu'à un moment donné, il lui dit oui, t'as pas des vidéos de mon mariage, etc. J'ai perdu les bobines et tout. Et lui, il monte un montage où il y a que elle sur le montage.
Ouais.
Bah, t'es un ouf, gars.
Forceur. C'est un malade. Forceur.
On est d'accord, Anaïs, que c'est un malade. Comment t'aurais réagi à la place de Keira Knightley, toi?
Bah, je comprends même pas qu'elle soit restée juste dans la même pièce que lui. Vraiment, je serais partie en courant très vite.
Oui, mais t'as raison. Donc, ouais, donc voilà, il y a des trucs comme ça que j'ai trouvé assez cool. Et aussi, toutes les histoires sont assez intéressantes. J'ai trouvé ça, tu vois, tu disais 2023, mais.
Non, je force un peu.
Mais ouais, non, mais je trouve ça un peu moderne.
Moins intéressant
ça, en tout cas, ça a pas mal vieilli. C'est-à-dire que
non, c'est
le rythme est pas mal. Je trouve ça assez digeste dans l'ensemble. Et quand même. Il y a ce truc où Hugh Grant il est quand même très très fort dans ce ouais, registre là il y a deux moments où il m'a vraiment eu, donc moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Love Actually, et il y a deux moments où il m'a vraiment eu, c'est à un moment donné où il est avec Billy Bob Thornton, donc qui jouait qui parodie un peu Bush, qui
ouais,
est
le président
américain, et en fait il doit aller chercher un dossier, Hugh Grant il sort de la salle et il croise la secrétaire dont il est amoureux,
ouais.
Et il lui fait une petite grimace genre hey, comme ça, et puis après lui tout seul il fait ah, pathétique, tu vois,
ouais,
genre, il y a un humour vraiment fort, très Hugh Grant. Et pareil, tu sais, quand il danse, plus que la danse, ce qui me fait rire, bah, c'est la rupture, quoi. À la fin, quand il tourne le doigt vers la secrétaire et que d'un coup, hey, tu sais, la musique s'arrête. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, toute la salle avait ri quand il y avait eu cette vanne.
Il paraît que c'était son idée.
Ah, c'est son idée, ça
ouais.
Putain, il est fort, Hugh Grant.
Ah, il est fort, Hugh.
Attends, mais attends, Anaïs, alors je dois dire une chose.
On a taffé le dossier.
Non, mais attends, Anaïs, déjà, elle est venue avec des faits au rocher, ça me plaît.
C'est vrai.
Avant l'émission.
Et maintenant, elle vient avec. Il y a trois goûts. Il y a le goût chocolat au lait,
coco et Ferrero. Et là, elle arrive avec des anecdotes tabziennes. Et Julien est arrivé avec une bouteille de cidre.
Du Québec.
Et avec un petit livre.
Putain, tu rigoles pas.
Ghostbuster que ton frère m'offre.
Ouais.
C'est très gentil. Donc, franchement, vous régalez. Hein, sublime. Bravo. Par contre, elle a une info tabzienne en avance, Julien. Attention. Hein.
Ouais.
Et nous, qu'est-ce qu'on a ramené?
Et vous, vous avez rien ramené?
Des clémentines.
Non, c'est Johan qui a
ramené. Ouais, c'est
la bonne humeur.
Mais la bonne humeur. Ils ont ramené la bonne humeur. Est-ce qu'il y a
j'ai
une.
Des blagues, moi.
Alors, en général, je demande quelle est votre scène préférée.
Ouais.
Là, je vais vous demander. Quelle est votre, parmi toutes les histoires que présente Love Actually, quelle est votre histoire préférée? Je vais commencer avec Julien.
Moi, c'est celle de Calling First. First.
First.
Ah
first.
Ouais.
Calling First.
Donc avec la dame de ménage portugaise.
Avec la dame de ménage portugaise. Parce que ça fait un peu amour de vacances. C'est-à-dire, tu rencontres, quand tu es un ado, que tu vas au camping, par exemple, tu rencontres une fille que tu ne parles pas du tout la même langue, genre Svetlana ou n'importe quoi, quand tu habites en, ça va être la meilleure meuf et tu ne vas jamais la revoir. Sauf que lui, il a appris la langue de la fille et il l'a revue. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. À chaque fois, ça me.
Ouais, c'est marrant en plus.
Ça m'émoustille.
Anaïs.
Moi, je pense que c'est l'histoire du petit. Il s'appelle Sam, c'est ça?
Ouais,
ouais.
Ouais, elle est très mignonne. Et la manière dont il est guidé par Liam Neeson, son personnage, je trouve ça extrêmement touchant.
Oui, qu'il
leur histoire
qu'il
à eux deux.
Sa mère,
et
ça,
en plus, son histoire avec celle dont il est amoureux, je trouve ça très bien.
Ce petit, il a fait d'autres films après, parce que je me suis posé
la
question.
Il a toujours la même tête, il a fait le labyrinthe.
Labyrinthe.
Mais c'est le même modèle, mais en plus grand.
Ah, okay,
il joue dans Game of Thrones aussi.
Oui.
Ah, il joue dans Game of Thrones.
Il meurt vite. Il meurt vite.
Ouais, il est
là, genre deux épisodes et.
Ok, d'accord.
Mais il joue dedans.
Midi. Est-ce qu'il y a une histoire que tu préfères parmi toutes les histoires?
L'histoire un peu la plus courte là, les deux jeunes, enfin le jeune là qui part s'exiler
en Alaska.
En Alaska, je trouve
ouais.
ça.
Ouais, trouvais ça marrant quoi.
C'est pas très, développé, mais c'est plutôt
rigolo.
Rigolo,
ouais. Aurélien.
Bah là, c'était parmi celles que j'aimais bien. Je pense que le vieux rocker là. Vu que c'est une histoire d'amitié, tu vois, et en fait il se balance des vannes tout le temps, il arrête pas de se foutre de la gueule de son manager, et au final il est à la soirée d'Elton John. Et il revient pour le nouvel an retrouver son meilleur pote. Je sais pas. Bah, à mon âge avancé, je trouvais que c'était l'histoire qui me ressemblait le plus, tu vois. Mais j'aime bien aussi celle de Sam avec Liam Neeson. Je trouve que c'est celle qui est la plus réussie, qui traverse le mieux le temps.
Ouais. Moi, je crois que celle que je préfère, c'est celle de Alan Rickman et Emma Thompson, parce qu'il y a plein d'histoires différentes dans le film.
Ouais.
Et celle-là, ça vient vraiment s'attaquer au problème de l'usure dans le couple, de la longueur dans le couple, et comment est-ce qu'on arrive à être séduit par l'autre après tant d'années, comment on fait pour ne pas être tenté par quelqu'un d'autre?
En vrai, c'est la plus réelle, celle-là.
Ouais, voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai aimé, parce que en revoyant Love Actually, il y a quand même pas mal d'histoires. Je me suis dit, bon, ouais, le truc des pancartes, j'y crois pas trop.
Même le premier ministre, wesh.
Ouais, non, mais le premier ministre, il y a un truc aussi où je me suis dit, bon, on est où là ? C'est pareil, je me disais pas ça à l'époque. C'est qu'à un moment donné, t'as Billy Bob Thornton, donc qui drague un peu la secrétaire, s'appelait pas Hugh Grant, et dans le discours face à la presse juste après, il dit nous allons utiliser la force face aux États-Unis parce que maintenant, genre, en gros, c'est la guerre et tout. Bah, genre, qui fait ça, tu vois.
Et surtout, moi, je tiens quand même à dire, genre, coup de foudre, ok, avec l'assistante et tout, il arrive avant Noël, il la vire. 4 jours après, et après il va chez elle. C'est quoi cette relation, les gars ? Ça dure une semaine. C'est... Ouais. Enfin, vous êtes des malades.
Ouais, non, il y a un truc, je sais pas. Il y a plein d'histoires que le pas. Et effectivement, celle d'Alan Rickman et d'Emma Thompson, c'est l'histoire qui est la plus réaliste, quelque part. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai aimé cette histoire. Et ouais.
Mais qu'est-ce que ça fait mal, quoi ? Tu sais, elle fouille dans son manteau. Ouais. Oui, elle voit le bijou.
Ah, elle croit que c'est pour elle et tout.
Et après, je sais pas si on peut dire. Les... Bon,
ouais, de toute façon, je pense que c'est un film que tout le monde a vu. Ouais. Parce
le pire, c'est quand elle ouvre son cadeau.
Ouais,
et que c'est un CD. CD de Johnny Mitchell.
Ça fait mal.
Et que lui, il croit que c'est cool parce qu'il a capté que c'était vraiment ce qu'elle voulait.
Ouais, c'est vrai que ça fait mal, ça.
Et qu'en fait. Et en plus, toi, quand tu vois le film, jusqu'au dernier moment, tu penses que peut-être le bijou c'était pour elle. Ou qu'il a pas vraiment fait cette dinguerie-là. Que ça se trouve, il a zappé. Que le bijou, il le donnera jamais. Ou même, tu penses qu'il l'a pas acheté. Parce qu'il y a. Mr Bean là, et en fait il lui donne pas, en fait il a été récupéré après. C'est vraiment l'histoire qui est la mieux écrite, je trouve, mais c'est bizarre parce que vu qu'elle est disséminée avec des trucs un peu marrants, un peu des fois grivois, tu vois.
Ouais, je vois bien.
C'est difficile à suivre, je trouve.
Est-ce que pour vous Love Actually, vous le classez dans la, parce que j'en parlais en intro, est-ce que vous le classez dans la liste maintenant des classiques de Noël, parce que finalement c'est un film assez récent et c'est dur de faire d'un film un classique de Noël pour un film aussi jeune. Très souvent les classiques de Noël on voit chez les années 80 90, même les années 50, 60, avec des films comme It's a Wonderful Life de Capra. Est-ce que pour vous, c'est un classique de Noël maintenant, Julien ?
Ouais. Ouais. Moi, ça fait partie des classiques de Noël qu'il y a forcément un gars en soirée à Noël qui va te dire « Ah ben, on va mettre machin si c'est pas Home Alone ou des choses comme ça. »
Mais tu sais que ça fait aussi ça pour un film qui est à peu près de la même époque, je crois, c'est... Merde, le film avec Cameron Diaz.
The Holiday. Ça, je le regarde vraiment à Noël, par contre. Ouais. Okay. The Holiday, je regarde tout le temps.
Anaïs, pour toi, c'est un classique de Noël, Love Actually ?
Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Bah, ça devient un classique dès que tu te dis, tu peux pas passer un Noël sans l'avoir vu. Quoi.
Ah, donc toi, ça fait partie de ces films-là, toi ?
Bah, pas nécessairement pour moi, mais en règle générale, c'est ça, un classique.
C'est quoi votre film préféré de Noël ?
Nuit Blanche à Seattle.
C'est un film de Noël.
Ah ouais,
pour
t'es
toi
chaud, toi ?
Ouais.
Bah oui, c'est un film de Noël parce qu'il va fêter Noël avec.
Ouais, mais c'est pas la grande partie du film.
Ouais, mais c'est pas grave.
Ouais, mais ils ont rendez-vous. Ouais.
Et puis parfois, il y a des films aussi qui sont pas forcément des films de Noël, mais que t'aimes regarder durant la période de Noël.
Ouais.
Parce que tu les regardes. Tu vois, par exemple, typiquement, c'est bizarre parce que les Astérix dessins animés comme les Astérix et Cléopâtre, etc., j'aime les regarder à Noël parce qu'on a tellement été abreuvés des Astérix pendant la période de Noël que maintenant j'associe ça à Noël. Ça fait la même chose pour aussi un dessin animé. Picsou et les Riri Fifi Loulou avec une lampe magique.
Ah ouais, la lampe magique.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je crois que ça va.
Il le passait tellement à Noël que maintenant je l'associe à Noël. Ouais. Toi, Anaïs, c'est quoi ton film de Noël préféré ?
En fait, j'en ai deux que je regarde à chaque Noël. Un que Julien déteste, c'est Maman, j'ai raté l'avion.
Ah, je déteste.
Quoi ?
Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Ah, je déteste.
J'ai balancé.
Ah
ouais,
mais Julien, mais qu'est-ce qui se passe ?
C'est son premier défaut.
Bah, je crois que sa meuf l'a quitté pour ça. Hein.
Non, je déteste le film. Moi, j'adore les méchants et ils s'en prennent tellement dans la gueule. Oh, et le gamin est insupportable. Il est.
T'avais vu ce tweet qui est passé où en gros ils expliquaient à quel moment auraient dû mourir les deux, puis ils meurent direct.
Plein de fois.
Ils auraient pu mourir 160.
C'est des catcheurs en fait, ils se prennent deux coups.
Techniquement, ils meurent tout le temps, quoi. Et donc, alors, Maman, j'ai raté l'avion, ok.
Et le Grinch.
Ah, t'adores le Grinch.
Ah, ouais, j'adore.
Okay. Pas mal, écoute. Le Grinch, je l'ai vu une fois et c'est vrai que c'est pas mal, je trouve. Je l'ai vu tard, ça le problème. Je l'ai vu très tard. Très bien, on va enchaîner avec toi, Aurélien, parce que Hugh Grant, comme j'ai dit, fait du Hugh Grant dans ce film. Il est drôle, fin, charmeur, poli, gauche et timide. Et pourtant, en 1995, s'est produit une histoire qui va à l'encontre de l'idée qu'on se fait de ce personnage.
Et oui, c'est sûrement le plus gros scandale des années 90. Ça se passe le 27 juin 1995. Sur Sunset Boulevard, Hugh Grant sort d'une soirée où il est avec Tom Arnold et Jeff Goldblum qui jouent dans le prochain film qui va sortir, qui est 9 Months, qui est marrant d'ailleurs parce que c'est une reprise
d'un film avec Patrick Braudé,
d'un film français, ouais, qui est réalisé par Chris Columbus, donc ça fait un lien avec le film préféré de Julien qui est Maman, j'ai raté l'avion. Et donc il est bourré, complètement pété, il se balade sur Sunset Boulevard et là il voit une prostituée qui s'appelle Devin Brown. Il s'arrête, il est un peu en mode oui, ouais, soirée, machin, il l'emmène. Sauf que derrière lui, il y a une voiture de police, de la police des mœurs, qui le suit, qui ne sait pas du tout que c'est Hugh Grant, mais en vrai, il voit qu'il y a une Mercedes blanche décapotable qui appuie sur le frein toutes les 5 secondes.
Donc ah, parce qu'en plus, ça a été décapotable la voiture ?
Ouais, c'était un délire, je crois.
Okay.
Et donc, il se gare sur une petite roue sur le côté, la police l'arrête, il a ses. son jean sur ses genoux et il était en train de... Voilà.
Divine Brown était en train de pratiquer une fellation sur Hugh Grant.
Voilà, ouais. On peut le dire comme ça. Voilà, ouais. C'est la meilleure façon de le dire. Et donc, c'est là qu'il se fait arrêter. Globalement, il y a ce fameux mugshot qu'on voit tous, qui va devenir un peu légendaire de Hugh Grant et de Divine Brown.
Ouais, j'ai l'impression que c'est le mugshot, un des mugshots les plus connus avec celui de Mel Gibson.
Ouais. Ouais. En tout cas, celui qui ressort le plus.
Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est celui de. Merde, putain, j'ai un tour de mémoire. Le mec qui joue dans 48 heures avec Eddie Murphy.
Nick Nolte.
Nick Nolte. Ouais, il a un mugshot où il a les cheveux en pétard comme ça avec une chemise hawaïenne.
Mais là, ce qui est fou, c'est qu'Hugh Grant, on dirait que c'est presque un shooting photo. Il est pas moche en fait sur le truc.
Alors ouais, mais on sent qu'il est tout.
Ouais, il est là. Il est censé être archi bourré le mec. Hein.
Vous connaissez Julien Anaïs, ce mugshot ou pas? De la police de Hugh Grant.
Non.
Faudrait que tu regardes ça.
Il est incroyable.
Mais c'est l'un des premiers, non?
Ouais. Pendant qu'Aurélien parle, je vais te le montrer, Anaïs.
Ouais, franchement, c'est un des premiers vraiment. Qui va traîner sur Internet, parce que vu que ça sort en 95, qu'Internet se développe sur 97, c'est un des premiers mugshots qui va être un peu envoyé sur tous les mails, les trucs, etc., et qui va devenir un peu légendaire. Le problème, c'est que Hugh Grant est en pleine promo de ce film, Nine Months, qui est en train de sortir. Donc, il est aux États-Unis pour faire la première promotion américaine d'un film à Hollywood. Il vient de se faire connaître avec 4 mariages en l'intermont, qui est sorti un an avant. Et genre, il est en train de vraiment être au top de sa carrière. Et donc, les tabloïds anglais et tous les médias américains sont à fond en mode genre, le jeune premier que tout le monde pense être, le gendre idéal que, dont toutes les femmes pensent que c'est le mec romantique et tout, est en fait un gars qui va aux prostituées sur Sunset Boulevard, vraiment horrible. Donc, tout le monde pense que c'est la fin d'une carrière qui vient de commencer, en fait. Et il va se passer... Un événement qui va être dans l'histoire de la presse et dans l'histoire de la gestion de la communication auprès des acteurs et des célébrités qui va tout changer en fait. C'est que la promo était prévue pour le film, donc Hugh Grant ne pouvait pas tout annuler, c'était impossible. Et il avait prévu une interview avec Jay Leno au Tonight Show seulement 10 jours après cet événement. Et il y allait en fait. Et il y a eu cette fameuse phrase de Jay Leno qui commence l'interview, qui commence l'émission et qui lui dit genre « Mais qu'est-ce qui s'est passé par ta tête, mec ? En gros, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Et en fait, à cette époque-là, toutes les célébrités qui ont des problèmes soit de drogue, soit de mauvaise conduite, soit de scandale sexuel, on peut penser à Charlie Sheen, tous les mecs qui passent genre à cette période-là au tribunal, leur délire, c'est plutôt de rien dire. Ou de nier ou de dire que c'est pas de leur faute, qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont alcooliques, etc. Et en fait, ce que va faire Hugh Grant, c'est totalement l'inverse. Il va être méga honnête, il va être hyper humble en disant « j'ai aucune excuse, j'ai merdé, j'ai pris une décision hâtive en 5 secondes et ça fait du mal à tout le monde, y compris à moi, et j'ai mis... toute l'équipe d'un film dans la merde. J'ai mis ma meuf du moment, donc Liz Hurley, complètement dans la merde. Et genre, j'ai pas d'excuses à faire. Et en fait, pendant un quart d'heure, même Jay Leno, il est un peu perdu en disant genre, c'est l'inverse de ce qu'était la communication des gens à Hollywood à cette époque-là. Et ça va devenir un peu le maître étalon de comment réussir à se sortir d'un scandale comme celui-là, scandale de presse, en étant finalement le plus honnête possible, le plus humble par rapport à ce que c'est que de faire des erreurs. Et après, ce que dit Hugh Grant, c'est que la grosse chance que j'ai eue, c'est que Nine Months a cartonné aux États-Unis. Son premier film américain a extrêmement bien marché. Donc en fait, très rapidement, on a oublié cette histoire. C'est devenu une vanne. En fait, il a réussi à le transformer en quelque chose de...
Oui, il s'en est très très bien sorti.
Oui, il a réussi à transformer ça en quelque chose de positif.
Qu'est-ce qu'il va faire comme gros film après, encore derrière?
Il a juste fait 4 mariages à l'enterrement. Et là, c'est son premier film américain, en fait.
Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que malgré ce mugshot culte, moi, quand je voyais après Coup de foudre à Notting Hill ou tous ces films... Je me disais pas, oh là là, c'est un gros dégueulasse qui se fait sucer par une prostituée à Hollywood Boulevard et tout, tu vois. Je me disais, c'est toujours le Hugh Grant tout timide et tout romantique, tu vois.
En fait, ce qu'il a réussi à changer juste, c'est de pouvoir ouvrir, par exemple, le personnage qu'il a dans Bridget Jones. C'est un personnage un peu plus coureur, un peu plus genre frondeur, et un peu égoïste, qui va être un peu son type de personnage dans les années 2000. Et en fait, on l'accepte plus parce qu'on comprend que son personnage public et son personnage privé, c'est aussi possible qu'il fasse des erreurs, etc. Et donc, en fait, c'est un mal pour un bien, parce que lui, ça lui a quelque part servi à ce que les gens y découvrent une personnalité qui était peut-être moins timide et moins romantique que ce qu'il était. Donc ça l'a aidé en termes de communication. Et ça a surtout aidé la prostituée qui va faire pas mal de télévision, qui va avoir bien sûr dès le lendemain une parution où genre il y a un magazine américain qui va payer 100 000 dollars pour avoir son témoignage en exclusivité, qui veut lui demander en description à quoi ressemble le sexe de Hugh Grant.
Et elle répond pas.
Oui. et surtout, là où c'est encore pire, c'est là où c'est vraiment des. Ils l'habillent pour le shooting photo avec la robe Versace qui est genre celle que portait Liz Hurley, genre il y a 5 ans avant.
Ah, sale.
Genre vraiment le truc, tu sais, ils jouent sur ce truc, ouais. C'est dégueulasse.
Sur le côté culpabilité, quoi.
Voilà, mais elle vraiment, elle va gagner finalement pas loin d'un million de dollars avec toute cette histoire en rendant parce qu'en fait elle va être après devenir une sorte de célébrité télé, tu vois, elle va faire elle va présenter des émissions en Angleterre de porno, enfin
c'est Pretty Woman mais version glauque d'ailleurs
un petit peu
j'ai à ce sujet, donc en fait je t'ai proposé ce sujet Aurélien pour comme chronique parce que hier est sorti sur la chaîne un split dans lequel je reviens sur le passé criminel de certains acteurs et des histoires qui sont incroyables et j'aborde pas en détail comme toi cette histoire avec Hugh Grant, mais là tu nous as apporté des détails en plus. Donc voilà, mais c'est intéressant de constater que cette affaire n'a pas eu vraiment d'impact sur lui. Quoi.
Non, puis ça a eu un win-win pour la prostituée, pour lui, et même maintenant en fait, là il est beaucoup plus revendicatif dans les médias américains et anglais.
Je trouve qu'il a changé de comportement.
Politique. Ouais, et en fait sur la politique, quand il fait des prises de position. Sur plein de choses, des scandales, etc. Souvent, les trolls sur Internet, ils postent juste en fait le mugshot en disant « Mec, pourquoi tu nous fais la morale ?» Et en fait, maintenant, il s'en est servi à l'inverse. Ça veut dire qu'on dit, des fois, sur Twitter, il y a quelques années, il a dit « Bon, là, je voudrais dire quelque chose. Voilà, pour ceux qui ne trouvent pas tout de suite, je vous envoie le mugshot. » Lui-même, il poste le mugshot en disant « Utilisez-le, de toute façon, tout le monde est au courant, j'en ai rien à faire. » Et maintenant, il en fait même des blagues. C'est-à-dire qu'on est sur les tapis rouges et qu'il interviewe des gens. Des fois, il fait des vannes sur ce qui est arrivé. Il faudrait pas que lui se retrouve bloqué avec une prostituée. Enfin, fait...
L'humour anglais, en somme.
Ouais, moi, complètement. Il a vraiment réussi. En fait, c'est quand même un exemple de comment se sortir humblement en gérant ses erreurs, d'avoir une vraie position. Je sais pas. Il y a peu de gens qui font ça, en fait.
Ça en est bien sorti, en tout cas. Écoute, merci Aurélien pour cette chronique. Maintenant, alors, Love Actually, ça parle d'amour. C'est le sujet principal. Et d'ailleurs, quand je regardais le film tout à l'heure, je me suis dit, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a un film qui parle autant d'amour frontalement? Parce que là, ça aborde l'amour dans plein de situations différentes, etc. C'est vraiment un film qui est réservé à l'amour, tu vois, qui parle que de ça. Et donc... Je me suis dit, on a plein de générations différentes autour de ces micros et j'aimerais qu'on parle d'amour. Et c'est marrant que tu t'aies commencé comme ça le podcast, Julien, parce que tu as dit en te présentant, ma meuf vient de me quitter. Et donc, en gros, ça m'intéresse de savoir comment, en fonction des âges, on ressent ce truc de l'amour. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais méga romantique. Forcément, on vieillit un peu, on change un peu d'idée. Et puis, je trouve que ça va aussi avec l'époque, tu vois, l'époque change. Toi, est-ce que tu es un romantique, toi, Julien?
Je suis pas un romantique, mais je fais en sorte que la personne avec qui je suis se sente bien.
C'est un gentleman.
Un petit peu. Mais voilà, en gros, plus le temps passe, plus je me dis, oui, les papillons, ça dure un certain temps dans sa vie. Mais moi, je vois l'amour comme, si je vis quelque chose dans ma vie, je veux que la personne qui partage ma vie soit là. Peu importe ce que c'est. Bon, mauvais moment. Je pense que c'est plus un partage et... mais il ne faut pas que ça tombe dans une routine où on s'emmerde et on se regarde comme deux poissons dans un bocal. Quoi.
Mais c'est-à-dire que les fameux papillons dont tu parles, ça n'existe plus, ça maintenant,
ça existe. La première fois que tu rencontres une femme, la première fois que tu la vois nue, la première fois que tu l'embrasses, il y a toujours quelque chose qui s'active, bien évidemment. Sinon, à quoi ça sert de tomber amoureux? Mais il faut voir au-delà de ça. Il faut voir qu'au-delà, il y a une présence, il y a une personne. Et même si les papillons ne sont plus là, tu l'aimes encore.
C'est mon nouveau maître.
Mon nouveau maître.
C'est ton nouveau maître à penser, Mehdi. Hein, Anaïs, comment toi tu perçois l'amour aujourd'hui?
Je suis assez d'accord avec Julien et puis c'est la raison pour laquelle Aurélien, tu le disais tout à l'heure, l'histoire avec Alan Rickman, c'est la plus réaliste parce qu'elle est complexe justement. Et une histoire avec Colin Firth, c'est très joli, c'est très mignon, mais elle est peu réaliste, quoi. C'est une amourette d'été au mieux dans la vraie vie. Mais effectivement, ouais, complexe et difficile à cerner, quoi.
Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans cette époque où il est si facile de rencontrer des gens, où les applications de rencontre se multiplient, est-ce qu'il est encore possible de trouver un amour sincère et durable, Julien ?
Bah, je sais pas.
Tu sais pas ? Bah, je pense c'est plus que... ton maître, là, j'ai fini, il a pas
ouais,
eu la réponse.
Non, mais... je pense que c'est... Oui, on peut trouver ça. Que j'ai pas mal d'amis que tu les regardes, soit des couples, ça fait 5-6 ans qu'ils sont ensemble, ou même des parents, où est-ce que tu les regardes et ils sont encore amoureux, même s'ils s'engueulent. Oui, ça existe, même... Mais
est-ce qu'ils sont vraiment amoureux ? Tu sais que moi, parfois, je regardais mes grands-parents, et il y avait un peu ce truc de... C'était l'ancienne génération, donc ils sont restés ensemble toute leur vie. Donc moi, pour moi, de mon point de vue d'enfant, je me disais, ah ok, c'est l'amour, tu vois, ils s'aiment. Mais maintenant, quand j'y repense, bah, tu sais, j'assistais à des scènes où mon grand-père était saoulé par ma grand-mère était saoulée par mon grand-père. Et est-ce qu'ils s'aimaient vraiment ? Est-ce qu'ils sont restés ensemble parce que c'était les codes et les normes de l'époque ? Est-ce que s'ils avaient vécu en 2023, ils se seraient pas séparés, tu vois ?
Peut-être, parce que comme tu le dis, à l'époque, quand de nos grands-parents, quand ils se rencontraient, c'était la fille du building ou la fille du village ou quoi que ce soit, alors que maintenant, on a du mal à entretenir toute cette relation et son jardin personnel. On se dit, oh, l'herbe est sans doute plus verte ailleurs et on va voir d'autres amours. Mais moi, je suis persuadé que l'amour existe encore et l'amour peut être sincère et durer, mais il faut parler.
La communication, maître mot.
Ouais.
Un midi.
Faut le garder, lui. Hein.
En tout cas, c'est un mec à marier, Julien.
Ah oui, clairement.
Ah oui, clairement. Anaïs, toi, ton point de vue sur la situation ?
Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que tu disais, puisque moi, quand j'entends ma grand-mère parler de mon grand-père, c'est absolument magnifique ce qu'elle peut en dire, tu vois, de leur histoire, de leur amour. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, au bout du téléphone, t'as une amourette possible à chaque instant, quoi. Donc, t'as plus ce sentiment d'une personne pour une vie, quoi.
Mehdi, c'est quoi ton avis sur la question ?
Moi, je crois en l'amour absolu.
Alors, pour ceux qui ont la ref, c'est une réplique de Patrick Sébastien dans le film Thème.
Il dit faut l'avoir, cette ref.
Il y a un truc où je ne sais pas, il dit, c'est quoi qu'il dit ? Il dit oui, au nom de quoi ? Voilà ça. Parce que Sébastien, il dit un truc, et l'autre, il fait au nom de quoi ? Et Sébastien, il fait au nom de l'amour absolu. Et donc, toi, tu crois à l'amour absolu, Mehdi ?
Totalement.
Aurélien, tu crois à l'amour, toi ?
Bah ouais, je pense. Bah en fait, c'est ça qui est intéressant dans Love Actually, par exemple, c'est que tu vois que l'amour, il peut avoir énormément de formes différentes. Je pense que au fur et à mesure du temps, ma vision de l'amour est toujours en train de changer, d'évoluer.
En bien ou en pas bien ?
Bah non, en bien, je pense. C'est juste que, je sais pas comment dire, ce que je pensais être de l'amour quand j'avais 20 ans, c'est plus ce que je pense, ce que c'est maintenant, en fait. Tu vois, il y a quand même la notion du temps qui est devenue vachement plus importante pour moi et qui l'a toujours été. Et je pense que plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus de toute façon tu es amoureux de la personne. Ou alors tu t'es planté dès le départ et ça sert à rien. Mais finalement, tout ce que tu as construit avec la personne, tout ce que tu développes avec elle, toutes les petites choses en fait qu'il y a dans le quotidien et tout, pour moi c'est plus ça l'amour. Et comme là on en parle, les grands-parents et tout, moi comme mon grand-père, bon je vais faire un peu du violon. Sur son lit de mort, il m'a dit, genre, la seule chose auquel je pense, c'est que je vais retrouver ma petite femme et tout, parce que, genre, ça fait 5 ans qu'elle n'est plus là, et c'est la seule chose qui manque de ouf. Bah, je pense que, dans le monde actuel, on a un peu perdu ce truc-là, où, en fait, c'était les petites choses du quotidien, de la construction, c'était pas des preuves d'amour, de psychopathe, tous les 5 jours, mais en même temps, ça faisait pas des grosses montagnes russes. J'ai l'impression que tout l'amour, c'est des montagnes russes de psychopathes. Les gens, ils sont genre, c'est la femme de ma vie, et 3 semaines après, c'est genre, ouais, c'est une pute. Bon, bah, les gars, ça veut rien dire. Pour moi, l'amour, c'était justement, peut-être, des fois, ça parlait pas, mais au moins, tu sentais qu'il y avait pas de doute sur ce qui allait se passer à la fin, en fait. Et peut-être que plus ça va et plus je me rapproche de ça, je pense.
Moi, la femme de ma vie, moi, c'est le PSG.
Qui va être souvent déçu au lit, alors. je me souviens que j'avais lu un jour une interview de Thierry Lhermitte, figure-toi, il y a très longtemps, et il avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, le véritable amour, c'est quand tu te rends compte que tu es plus gêné par les blancs. Quand t'es avec ta femme, tu vois, et donc ou avec ta petite amie, et donc il y a un blanc et ça te gêne plus, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est le début de l'amour.
L'amitié, c'est plus fort que l'amour ?
Pour moi, alors je vais vous dire une chose. Pour moi, j'ai toujours trouvé que l'amitié était plus fort que l'amour, parce que dans l'amitié, il y a quelque chose de plus sincère, parce que l'amour. Et d'ailleurs, c'est la première image que t'as pris tout à l'heure, Julien, pour en parler. T'as dit quand on voit son corps nu, etc. Donc en fait, l'amour est quand même motivé par cette envie de coucher avec la personne, d'être attiré sexuellement par la personne. Ça fait partie de la chose, quoi. Alors que l'amitié, il n'y a pas forcément ça. C'est-à-dire que l'amitié, on y va parce qu'il y a des valeurs qui nous rapprochent, des valeurs qui nous vont. l'humour, les centres d'intérêt, etc. Il y a vraiment un truc fort où on se dit, ok, on se sent bien avec cette personne, et il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt sexuel derrière, tu vois. C'est la différence pour moi entre l'amitié et l'amour. Donc j'ai tendance à penser que l'amitié est plus forte que l'amour. Après,
mais dans ton couple, tu peux devenir meilleur pote.
Bah, bien sûr.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même rare, quoi. Tu vois. C'est, moi, je sais que j'ai eu plein de... En fait, moi, je me souviens que j'ai eu plein d'histoires d'amour, comme ça, enfin, d'histoires d'amour, où je me rends compte aujourd'hui que c'était avant tout basé parce que je trouvais basé sur le physique, parce que je trouvais la fille attirante, quoi. Et après, je me disais, bah, si on s'entend bien, tant mieux, quoi, tu vois.
Ouais.
Et on s'entendait bien, mais c'était pas non plus la grande éclate, quoi, tu vois.
Et... Moi, c'est l'inverse, moi. Je suis pas attiré si je sens qu'il y a pas de... Tu vois. Si je peux pas discuter pendant 3 heures et à un moment plus savoir quelle heure
il est. Oui, mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard, tu vois. Donc, ouais. Toi, Julien.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs types d'amour. Amical et amoureux. Je n'arrive pas à mettre lequel en avant ou quoi que ce soit, parce que ça dépend des périodes de ma vie ou quoi que ce soit. Mais l'amitié, moi, pour moi, genre, j'aime mes amis, mais d'un amour profond. Mais celui que j'avais pour mon ex-femme est différent.
Ah, tu étais marié?
Non, je n'étais pas marié, mais okay, pour moi, d'accord. C'était ma femme.
Ouais.
Mais heureusement qu'on n'a pas payé un mariage. Mais,
ouais, c'est nul.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens paient des mariages pour divorcer un ou deux ans après.
Bah, bien sûr.
C'est pas vrai, j'ai pas raison, Mehdi?
Totalement.
Oui.
Je savais pas arriver.
Oui. Mais je définirais l'amour sur différents amours. Par exemple, mon ex-femme, quand je l'ai quittée, on s'entend toujours très très bien humainement et c'est je cool, l'aime ça. D'une façon différente, humaine, mais plus en tant que partenaire de vie sur qui je vais miser sur 50 ans de bonheur. Mais oui, je vois un amour, ça n'a pas seulement une vision unique, ça a plusieurs visions pour moi, qu'elles soient amicales ou amoureuses.
D'accord. Anaïs ?
Ouais, totalement. Et puis, je trouve que l'amitié et l'amour ont quelque chose en commun, c'est que tu te projettes avec les deux. Et l'amitié, ça peut être bien plus fort parce que ça peut durer absolument toute une vie sans avoir de fin. Alors que, ouais, effectivement, l'amour, ça peut tourner en rond. Ça peut... Alors qu'une amitié, elle se renforce à chaque instant, quoi.
Ça fait plus mal de se faire trahir en amitié ou en amour ?
Bon, la trahison, c'est chiant. Hein.
La trahison, ouais. Dans
les deux cas.
Dans les deux cas. Hein. Tu le prends différemment. Parce que je pense que quand tu le prends en tant qu'ami, tu sais que ça va finir. Mais que tu te prends en tant qu'amoureusement, ça arrive avec ton amant, ça me fait réfléchir. Je cogite. Je refais le scénario 50 fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bref. Mais moi, je vois ça. Ouais, les deux, c'est horrible.
Bon, qui a déjà trompé ici son conjoint ?
Si. Aïe, 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 lui, il est en section. Il va mettre tout le monde mal à l'aise, ok. Et là, je vais pas rebondir, Mehdi, là-dessus. Bravo. Eh bien, écoutez, on va enchaîner sur cette proposition de question de Mehdi, parce que figurez-vous qu'on parle d'amour, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. On vient de parler d'amour, comme j'ai dit, et pour approfondir ce sujet, eh bien, il y a un docteur en relations humaines et amoureuses. Merci d'accueillir le docteur Ampardzoumian.
Bonsoir.
Bravo.
Bonsoir.
Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Alors docteur, tout va bien ?
Tout va bien. Merci de Jean-Baptiste de m'avoir invité aujourd'hui pour pour ce podcast.
Merci docteur Ampardzoumian. Alors docteur, je vais vous présenter à travers votre CV, si vous le voulez bien. Vous êtes né à Pontecorvo en 1974. Mmh. Vous avez brillamment obtenu votre bac STT avec une moyenne de 11,5.
Mmh, c'est ça, c'est bien ça.
Ensuite, vous avez découvert le monde du travail en étant employé chez Kiloutou. S'en est suivi 3 ans à l'accueil d'une auto-école à Montargis, ainsi que 2 ans d'intérim et une année au Buffalo Grill. Par contre, j'ai pas réussi à trouver à quel poste. Si vous pouvez me...
J'étais en cuisine.
En cuisine, d'accord. Et bien sûr, aujourd'hui, docteur en relations humaines et amoureuses.
Est-ce que... Non, en 96, j'étais maître chien.
Oui, d'accord. Mais, je l'ai oublié dans le CV, excusez-moi. Monsieur, on part du mien. Oui, donc, docteur, en fait, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier ?
Juste avant, il y a un jingle pour lancer mon...
Ah oui, c'est vrai, je vais promis un jingle. Oui, c'est vrai que vous m'avez dit hier, mettez un jingle pour ma venue. Voici le jingle pour le docteur en part du mien. Oui, donc en quoi consiste votre métier, docteur ?
Bon, moi je suis un spécialiste en amour, donc j'aime discuter avec des gens qui ont des situations assez difficiles. Et je me propose de venir pour les deux petits jeunes et aussi pour répondre à quelques questions.
Alors, Julien, Anaïs, profitez-en parce que c'est 200 euros de l'heure, c'est ça le tarif ?
Oui, on est là-dessus. Ouais.
Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lui poser tout à l'heure. Si vous avez posé des questions en amour, c'est le docteur en part du monde, il est là pour ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, en fait, j'ai demandé aux abonnés de se livrer à moi, de poser des questions, si vous avez envie de poser des questions. Et docteur en part du monde, vous allez y répondre.
Oui, tout à fait.
Merci. Alors, bien sûr, tout est anonymisé. C'est comme ça qu'on dit. J'ai une première lettre qui nous vient de Corentin Z. Mm-hmm. Et donc, encore une fois, je précise que je ne donne pas les noms de famille par souci de discrétion. Donc, Corentin Z qui nous écrit ceci. Salut la team, j'adore votre podcast. Voilà mon problème. À chaque fois qu'on regarde un film avec ma copine, je sens bien qu'elle fantasme sur les acteurs qu'elle voit à l'écran, si bien que depuis un an, je fais exprès de lancer seulement des films avec Jacques Villeray ou le nain de Game of Thrones.
C'est horrible.
Mais le problème, c'est que j'ai envie de revoir des bons films comme avant. Que faire?
J'ai bien connu ce problème avec, avec ma femme qui m'a quitté pour le sosie de Kevin Costner. Donc derrière ça, j'ai pris un avocat et puis quelques antidépresseurs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est les 1 an que je fête de mon petit Valentin dont j'ai perdu la garde.
Un conseil pour notre abonné, monsieur Pardumont.
Je crois qu'il faut rester calme.
Ok, très bien, merci. Ok, autre question qui nous vient de Maximilien F qui nous dit « Hello équipe, merci d'exister, meilleur podcast ciné, je veux rien savoir ». Bien meilleur que l'autre violeur qui s'est exilé au Canada pour éviter la justice, tel Kadhafi qui fuit la série. Non, mais attendez. Qui m'a donné cette question là dans le... Je regarde l'assistant. Là, non, mais attendez.
C'est étonnant, c'est étonnant.
Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout le ton du podcast. J'ai demandé du courrier du cœur, ça c'est inacceptable. Donc, question suivante, j'enchaîne. Question de Aurélien C, a.k.a. Captain N.
D'accord. Ouais.
Bonjour l'équipe, j'aime trop vous écouter, surtout celui qui parle de rap là, il est vraiment trop fort. Voilà mon problème est tout simple, je fais encore pipi au lit, ce qui pose des problèmes dans mon couple. Quelle est la solution pour en finir avec ce cauchemar?
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Aurélien C, a.k.a. Captain N.
Il fait pipi au lit.
C'est son problème, est-ce que vous avez une solution pour lui?
Je crois qu'il faut rester calme.
Okay. Merci docteur Opardzoumian pour toutes ces réponses. Julien, Anaïs, il est là, et c'est 200 euros l'heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Julien, une question pour le docteur Opardzoumian ou pas?
Moi j'ai une petite question.
Ah, Anaïs a une question. Anaïs a une question pour le docteur.
Pourquoi est-ce que la voix se rapproche de Zidane? C'est une façon... J'ai compris.
Ok.
Tout d'abord, je voulais te dire que tu me fais beaucoup penser à ma fille, dont j'ai perdu la garde aussi.
Merci, docteur.
Faut rester calme.
Faut rester calme.
C'est son conseil. Julien, une question, profite-en. Non, mais ta copine vient de te quitter, donc peut-être que tu as des conseils à lui demander.
Ah, d'accord, ta copine vient de. Comment, quoi?
Oui, ma copine vient de me quitter, comme vous. Comment avez-vous survécu?
Je crois qu'il faut rester calme.
Ok. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci, docteur, d'être venu. Eh bien, écoutez, merci. Mehdi, tu connaissais le docteur Opardzoumian?
Non, pas du tout. Écoute, très sympathique. Bah, je sais pas si tu connaissais. Non, je connais
t'as,
pas du
t'as
tout.
Pas une question pour lui, pour le docteur?
Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question?
Et il est devant toi, hein, faut y aller. Hein.
Ouais, je sais. Ouais. Non, moi, les femmes m'ont beaucoup trahi.
Ouais.
Et je voulais savoir, pareil, comment faire pour remonter un peu la pente.
Et il remet les lunettes.
Question intéressante de Mehdi. Quand tu dis que tu as été trahi, c'est-à-dire? Disons que... Non, mais dis, je te sens perturbé. Reste calme.
Eh bien, merci. Merci, docteur Opardzoumian, d'être venu. Moi, on peut l'appeler le docteur, parce que...
Bravo, docteur.
Il se déplace très rarement,
merci,
attention.
Merci, hein. Merci.
C'est votre cabinet, où?
À Villiers.
Oui, d'accord. Oh, Villiers. Je vois que ça palpe un petit peu. Bravo. Très bien. Écoutez, c'est sublime. Je vous propose d'enchaîner, tant bien que mal, sur les anecdotes de films, parce que vous êtes deux abonnés de TFTC, Anaïs et Julien. Il m'est donc inconcevable d'imaginer que votre raison de vivre n'est autre que les anecdotes croustillantes.
Tout à fait.
Bien sûr. On va vous proposer quelques infos croustillantes. Est-ce que ça va vous régaler? Oui, non?
Oui. Bah, plus que ça.
Évidemment. Plutôt dans cet épisode, j'ai cité un grand nombre d'acteurs anglais. Pourtant, au milieu de tous ces Britanniques, il y a une actrice américaine, Laura Linney. Donc Laura Linney qui joue le personnage de cette nana au bureau qui fantasme sur son collègue aux
cheveux
longs.
Elle est trop bien cette histoire.
Ouais, elle est cool. Donc c'est Laura Linney qu'on a vu dans pas mal de films extraordinaire aux États-Unis. Ouais. Et la raison de sa participation dans le film est drôle. Avant le tournage, le réalisateur Richard Curtis répétait en boucle que pour ce rôle, il fallait une actrice dans le style de Laura Linney. Alors ils ont passé plein de castings, sans trouver la perle rare, ils ont commencé un peu à se tirer les cheveux, avant que son producteur ne lui dise « Bah tu sais quoi, bah prends Laura Linney !» Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait.
Ça paraît logique.
Bah, voilà, bah, pourquoi pas prendre Laura Linney s'il veut un... Bon, ouais. Donc c'est comme ça que Laura Linney a joué dans Love Actually. Vous voyez cette scène d'intro un peu culte à l'aéroport, au tout début ? Eh bien, ce sont des véritables personnes que l'on voit à l'écran. Aucun acteur n'a été filmé. Une équipe était sur place à l'aéroport durant plusieurs jours. Et lorsque les cheveux... Les cheveux, pourquoi j'ai que les cheveux ? Ah non, c'est un autre truc. Et lorsque les images filmées étaient assez parlantes, l'équipe allait se présenter aux gens et demandait leur permission d'utiliser les images pour un projet de long métrage, sans dire que ça allait être Love Actually. Je trouve ça assez cool.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne savaient pas qu'ils sont dans les films les plus vus de l'histoire.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à l'aéroport, quelqu'un de leur famille ou un proche arrive, ils sont hyper heureux et ils se retrouvent dans Love Actually. C'était pas prévu, quoi. C'est trop bien, je trouve.
Ouais, c'est beau ça.
D'ailleurs, Love Actually devait s'appeler Love in London à la base. Et je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est Hugh Grant qui a donné un conseil à Richard Curtis en disant « Je pense que ça devrait s'appeler Love Actually parce que le film parle de ça. »
Ouais.
Et je pense que le film aurait moins marché si ça s'était appelé Love in London. Parce qu'il y a un truc très niche où en gros... Ouais. Le titre indique que okay, c'est un truc anglais et tout, alors que là, Love Actually, c'est beaucoup plus international. Quoi, tu vois. C'est ma petite analyse. Lucia Moniz, qui joue la dame de ménage portugaise dans le film, a eu le rôle de façon assez drôle. En gros, c'est un pote à elle qui a lu dans un journal qu'il y avait un casting donc pour ce film, Love Actually. Et en gros, pour faire la blague, il a pris une photo de sa pote, il l'a envoyée, et en gros, les gens ont été séduits par la photo, ils ont appelé la meuf et elle a eu le rôle, quoi. Mais là-bas, c'était lui qui a fait une blague en mode « Tiens, je vais envoyer ta photo pour le casting », alors qu'il n'était pas forcément prête à jouer un rôle dans ce film, quoi, tu vois. Donc, c'est comme ça que Lucia Moniz a eu le rôle. De la même façon, Billy Bob Thornton, donc, qui joue le président américain, n'a même pas lu le script avant d'accepter. Il a juste été séduit par la lettre qu'a accompagné Richard Curtis au script. Et la lettre était tellement bienveillante et élégante qu'il s'est dit « Ok, je ne sais pas ce qu'a fait ce gars ». J'ai pas lu le script, mais j'adore tellement la lettre que je vais dire oui, quoi.
Mais c'est comme ça voir, parce qu'au final, il passe pour un gros con dans le film.
Bah ouais, ouais, mais ça colle un peu, je trouve, avec le perso de Billy Bob Thornton qui joue toujours
vrai,
un peu des salauds, quoi. Tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Même dans Bad Santa, tu vois, il joue souvent des salauds, ce gars. Ouais. Autre info, Emma Thompson dans le film. Enfin, alors, Emma, on parlait de la relation, enfin, cette histoire entre Emma Thompson et Alan Rickman.
Ouais.
Et en gros, eux, ils devaient faire sentir aux téléspectateurs qu'il y a de l'usure dans le couple, qu'il y a vraiment de la routine, etc. Et donc, il voulait que Emma Thompson prenne du poids. Sauf que Emma Thompson n'a pas pris du poids, et Emma Thompson est hyper mince. Donc, vous verrez que pendant tout le film, elle porte des vêtements hyper larges pour qu'on ait l'impression qu'elle s'est un peu empâtée, quoi.
Même il faut une scène là-dessus où elle dit plein de choses sur ça.
Exactement. Changé, alors qu'en fait, elle était hyper mince. Pareil, info que j'ai trouvé assez drôle, le personnage de Rowan Atkinson, donc Mr. Bean, dans Love Actually, la première idée pour lui, c'était de faire de lui un ange. C'est un peu nul, je trouve. C'est-à-dire qu'à la fin, il devait disparaître comme un ange à l'aéroport ou un, enfin,
dans une scène. Ouais.
Et en gros, bah, on se rend compte qu'il parlait à un ange depuis le début. Bon, vous êtes OK avec cette idée ou pas ?
Oh,
bah,
non, c'est nul.
Bah, je trouve que c'est un peu l'idée de fin.
Ouais,
quand il est à l'aéroport, il y a un truc un peu magique où il sauve l'histoire d'amour.
Sauf que là, il l'appuyait vraiment à fond. Quoi. Ouais. Tu vois.
Après, la scène dans le magasin, c'est quand même très drôle.
Ouais.
Oui,
il est fort.
Ouais, c'est drôle. Il y a aussi une scène qui a été coupée au montage, vous pouvez la retrouver sur YouTube, où à la fin, le fils. Donc le fameux fils que t'aimes bien toi Anaïs dans le film court pour retrouver son amour de jeunesse et en fait il fait plein de figures de gymnaste pour arriver jusqu'à elle et pour sauter les barrières de sécurité et tout et en fait ils ont cuté ça en mode ok c'est juste pas sérieux quoi. Mais c'est marrant parce que Spielberg
qu'il a pris la batterie en une semaine le mec.
Ouais mais c'est marrant parce que Spielberg lui il s'est pas gêné avec Jurassic Park 2 parce que il y a toute une scène de gymnaste avec la petite qui utilise ses skills de gymnaste pour tabasser les vélociraptors et tout. Donc c'était un peu le même mood quoi. Pareil, on va revenir sur Laura Linney. Laura Linney jouait dans deux films au même moment en 2003. Elle jouait dans Mystic River et dans Love Actually, ce qui fait qu'elle a eu 6 mois méga chargés où dans la semaine, elle prenait 2-3 fois l'avion Londres-États-Unis, et elle faisait que ça en fait. Quand elle terminait ses prises pour Mystic River, elle prenait l'avion pour Londres. Quand elle prenait ses prises à Londres, elle revenait pour Mystic River et elle a fait ça pendant plusieurs semaines. Et elle avait un décalage horaire terrible, elle était méga fatiguée et elle s'embrouillait dans les prises en mode attends, ça c'est une réplique dans Love Actually ou dans Mystic River et tout. Et genre c'était un peu un enfer. Un peu ce qu'avait fait Michael J. Fox pendant le tournage de Retour vers le futur où il tournait dans une série et dans Retour vers le futur en même temps et il s'embrouillait un peu dans les prises, etc. Enfin bref, c'était un enfer quoi. 3 petites infos en plus. Hugh Grant, tu parlais justement de la scène de danse avec Hugh Grant. Tu disais que c'était l'idée de Hugh Grant. Et en fait, Hugh Grant a eu cette idée parce qu'en fait, il s'est dit, qu'est-ce qu'un Premier ministre ne ferait pas, en fait?
Ouais.
Au sein de... Je sais pas comment ils appellent ça, là-bas. C'est pas l'Élysée.
C'est l'équivalent de l'Élysée.
Comment ça s'appelle?
Ten Downing Street, c'est là.
Downing Street, ok. Ouais, il disait, qu'est-ce que ferait un Premier ministre là-bas dans un film qu'il ne pourrait pas faire dans la vraie vie? Et en fait, il a pensé à cette scène de danse.
Ouais.
Donc voilà. Autre info également, Claudia Schiffer fait un caméo dans le film. On la voit combien? 3 secondes à l'écran?
5 minutes, parce qu'on la revoit un peu après.
Ouais, mais tout cumulé, je crois que c'est vraiment... voilà, j'ai l'info, c'est une minute en tout, en fait.
Ok.
À votre avis, elle a touché combien pour cette minute? Allez, lancez les tarifs, celui qui s'en rapproche le plus. Julien.
130 000 livres. C'est en livres ou c'est en dollars?
Allez, on va dire en livres. 130 000 livres. On va dire en dollars parce que les gens comprennent plus le cours du dollar. Allez.
150 000 dollars.
Donc c'est plus du coup.
C'est plus.
Non, enfin, si tu dis 130 000 livres, c'est que c'est plus en dollars.
Ouais. Enfin, j'y connais rien autant de.
Ah, ok, d'accord. Bon, on va rester sur les livres. Ok, 130 000 livres.
130 000 livres.
Aurélien, en livres.
Attends, on est en 2003. Je dirais 450.
Oh.
450 000 livres.
Midi.
300,
ok. Anaïs?
Je crois que j'ai lu l'info.
Ah.
Vers les 230, 220.
C'est Anaïs, effectivement, c'est 200 000 livres.
C'est soit, déjà énorme.
Soit 300 000 dollars. Elle a 300 000 dollars pour un caméo d'une minute où elle parle pas trop, en plus, je crois.
Non, non. C'est juste l'image de... vu qu'il lui avait dit qu'il rencontrerait
peut-être... Ah, il se fait une mannequin. Ouais. 300 000 dollars, bien joué, elle.
Elle a trois phrases.
Bien joué, elle. Et enfin, Richard Curtis, le réalisateur, fait un caméo dans le film, puisqu'il joue un des joueurs de trombone au début, dans l'église, au mariage, quand le fameux pote bâtard organise une surprise pour son pote. Et il y a plein de musiciens qui sont à l'intérieur de l'église. Et il joue un des gars au trombone. Et ce que je trouve assez drôle quand même avec Richard Curtis, c'est que, je le disais en début de podcast, il a écrit le scénario pour des... films qui ont cartonné, pratiquement tout ce qu'il écrit ça cartonne, et lui après il est passé à la réalisation et il a fait trois films donc qui sont Love Actually, Good Morning England et It's About Time, je crois que c'est Il était temps en français.
C'est bien ça.
Et en fait les trois films ont cartonné, tout ce qu'il écrit ça cartonne, et c'est drôle de se dire que ce gars n'a que trois réalisations à son actif. Il a un clip et un court-métrage aussi, mais il a que trois films alors qu'à chaque fois ça cartonne. C'est bizarre qu'il fasse pas plus de films avec Richard Curtis, quoi. Donc voilà pour les anecdotes croustillantes liées à Love Actually. On va pouvoir enchaîner sur le segment du dernier de la dernière. Tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, je vais commencer avec Anaïs. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
C'était Mars Express.
Ah, le film d'animation dont tout le monde parle en ce moment. C'est
vraiment
bien ça,
très chouette.
Et c'est français,
très
c'est
très
ça?
Ouais, c'est français.
Et donc c'est cool?
Ah, très cool, très dans le mood de Blade Runner... tu vois, de Ghost in the Shell. C'était vraiment super cool.
Trop bien. Moi, j'ai eu que des bons retours. Toi, Aurélien, tu l'as vu ou pas?
Non, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que ça me donne...
Parce que c'est ta cam, ça, à fond.
Ouais, de ouf. Ouais,
trop bien. Julien, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Moi, j'ai vu Perfect Days de Wim Wenders et ça a été une torture.
Ah ouais,
ah, t'as pas aimé?
Non, j'ai pas du tout aimé.
Pas vu non plus encore.
J'ai vu le trailer et en fait, le trailer, ils ont monté seulement un segment de 15 minutes dans le film et ils ont monté un trailer là-dessus. Sauf que... c'est une journée cyclique d'un nettoyeur de toilettes. Et dans le trailer, on a l'impression qu'il va se passer 200 000 choses. Sauf que dans le film, il ne se passe rien.
Alors parfois, il se passe rien, mais il se passe des choses.
Ah non, mais là, il ne se passe rien. C'est vraiment genre la journée de la marmotte, mais sans qu'il se passe quelque chose.
Ok.
D'accord. Et ça a été une boucle.
Mais t'es resté jusqu'à la fin?
Ah, bien évidemment, parce que je m'attendais à avoir quelque chose qui allait changer ou quoi que ce soit. Mais la BO est sublime, par contre. La BO est sublime parce que c'est des musiques des années 70-80.
Mm-hmm.
Mais sinon, le reste du film est assez douloureux.
Est-ce que t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné?
Non. Non, parce que je pense qu'il faut être respectueux envers les autres spectateurs. Il ne faut pas monter et se barrer au milieu d'un film, même si le film il est très douloureux ou quoi que ce soit.
C'est ton maître à penser, Mehdi.
Mais déjà, c'est un mec droit. Donc, un mec droit, il a des principes comme
oui,
ça.
Oui, bien sûr.
Mais non, je ne suis jamais parti après une séance. J'ai regardé au bout, même si ça a été... même si le visage
même si t'aimais pas, quoi.
Ne me parlait pas.
Anaïs, t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné?
Jamais, parce que pareil, je respecte les spectateurs.
On a des gens très respectueux. Mehdi, t'es déjà parti avant la fin d'un film au ciné?
Ouais, je crois que c'est possible.
C'est possible. Toi, tu respectes pas, toi. Aurélien, t'es déjà parti avant la fin d'un film?
Je crois que ça m'est arrivé une fois et c'était un film de Clint Eastwood là, où,
ah ouais,
ouais, avec Matt Damon là, où genre il parle de Near Death Experience là.
Ah, avec Cécile de France ?
Ouais, en fait, c'est un mélange. Il y a des acteurs français, mais que d'un téléfilm et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça nul, alors que c'était Clint Eastwood. Peut-être avoir un truc bien.
Moi, je suis un peu comme vous. Je suis assez respectueux du truc. Genre, le gars, il a fait un film, il faut rester jusqu'à la fin. Mais il y a quand même deux films où je suis parti avant la fin. C'est un film sur l'Arche de Noé de Darren Aronofsky avec Russell Crowe dans mes souvenirs.
Ah, je l'ai vu ça, moi.
Où vraiment j'étais.
Ah, ça t'a saoulé ?
Ouais, je sais pas, je suis pas rentré dedans. Et puis, je pense. Et puis aussi. Il y a quand même des jours où tu sais peut-être que t'es contrarié, t'es dans un mauvais mood parce que machin, parce que le travail, ouais. Parce que ta vie perso, et t'étais là genre ok, je prends une voir un film. Et le deuxième c'était Thar Ragnarok de Taika Waititi où ils ont tourné une scène sur une colline et c'était que de la CGI. Je me suis dit bon allez vas-y tournez vraiment sur une colline là. C'est juste une colline, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux là tu vois. Et j'étais là genre franchement c'est pour voir juste de la CGI et des animations comme si c'était un jeu vidéo, je sais pas, ça m'a un peu saoulé du coup. Et comme je suis pas très calé Marvel... Bah, toutes ces raisons ont fait que je suis parti avant la fin. Quoi. Mais c'est vrai qu'en général, je reste jusqu'au bout. Quoi. Même si c'est douloureux, comme tu le disais. La dernière série que vous avez regardée, Anaïs ?
Moi, c'était Severance sur Apple TV.
Ok.
C'était vraiment
ça
cool.
Parle de quoi ?
Ça se passe dans un bureau où il se passe des choses étranges. En gros, les personnes qui travaillent ne se souviennent pas de leur vie extérieure au travail. Et quand ils sont à l'extérieur du travail, ils ne se souviennent pas de ce qui se passe pendant les 8 heures au bureau. Et une faille va intervenir... dans tout ça.
Ok, très Julien.
Moi, c'est bien, Star Wars Rebelle, la okay. série d'animation Star Wars, où moi j'adore, je l'avais déjà vu et là je l'ai revu, et je trouve quand même assez intéressant qu'il y a d'autres choses qui se passent autour de la famille Skywalker, parce qu'on a l'impression que c'est toujours là, ça, Star Wars, il y a toujours un lien avec les Skywalker.
Skywalker.
Et en fait, là, c'est totalement différent et ça me plaît vraiment.
Le dernier film que vous avez vu, il y a une plateforme. Anaïs.
Bah moi c'était Love Actually, mais bon bah pour tricher un petit peu, j'ai regardé sur Arte l'autre soir sur la roue du Madison. Ah. Et c'était la première fois que je le voyais, c'était génial.
Superbe. Julien.
Moi j'ai vu Un Ticket pour deux avec Steve Martin.
Un de mes films préférés. Une de mes comédies préférées, figure-toi.
Et
John Candy.
J'ai adoré, même si les deux sont un petit peu antipathiques et un petit peu diamétralement opposés. Et c'est rare que je regarde un film où à la fin je me dis, j'aurais aimé que ça continue encore une demi-heure.
Non, c'est trop bien. Et tu sais qu'il y a un remake qui existe avec Robert Downey Jr., si je dis pas de bêtises. Et merde, j'ai oublié son nom, le gars qui joue
Gaffinagis.
Dans... Et voilà, Gaffinagis, très dur à dire.
Date limite.
Et qui est pas mal d'ailleurs dans mes souvenirs, j'ai bien aimé.
Ouais, c'est le truc avec le chien là ? Il y a pas un petit bulldog dans le film ?
Si, c'est ça.
Ah ok, c'est bien, c'est un remake ?
Ouais, c'est,
un
ouais remake. C'est une sorte de remake parce qu'il se retrouve aussi à devoir faire de la route. C'est un Robert Downey Jr. qui est un connard.
La dernière chanson que vous avez écoutée, Julien ?
Moi, c'est Yeba. C'est une artiste que je ne connaissais absolument pas et c'est un peu de la soul mélangée un petit peu avec de la pop. Et c'est vraiment le meilleur album que j'ai écouté cette année. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, il y a une belle ligne de basse, c'est une belle ligne de batterie derrière, et je me régale.
Et le titre ?
L'album, c'est Dawn, D-A-W-N.
Okay. Il n'y a pas une chanson en particulier
Tout l'album.
D'accord,
tout l'album.
Ok. So we fell through the door like the autumn leaves. And I wrestled my brother down to his knees. Just to watch as a rocket shot into the October sky. Anaïs, la dernière chanson que t'as écoutée ?
Moi, c'était Par amour de Youssoupha.
Par amour, j'ai chanté mes frères. Par amour, j'ai changé quand même. Par amour, j'ai suivi ma voix. Parfois, je ne sais pas où ça mène. Par amour, j'ai chanté mes frères. Par amour, j'ai changé quand même. Par amour, j'ai suivi ma voix. Parfois, je me suis perdu quand même.
Le dernier livre que tu as lu, Anaïs ?
Je me suis replongée dans La Horde du Contrevent de Damasio. C'est un livre de science-fiction qui est génial, où on suit 23 personnes qui ont été formées depuis leur naissance pour trouver l'origine du vent et la combattre. Donc c'est génial.
Très bien. Julien ?
Moi, en livre, livre sans texte, sans image, j'ai lu L'amour sous algorithme de Judith Duportail. C'est une femme qui se met sur les médias, sur les réseaux sociaux, Tinder et des choses comme ça, et elle voit comment elle reçoit ça. Donc au début, c'est l'extase parce qu'elle est désirée par des milliers d'hommes. Et après, il y a un contre-coup et c'est pas mal.
Le dernier jeu vidéo auquel t'as joué, Anaïs ?
Trek to Yomi.
C'est quoi comme jeu ?
C'est un jeu sur la période Edo, Japon, avec des samouraïs. Enfin, tu suis un samouraï. C'est un jeu en noir et blanc. PS4.
PS4, ok. Julien ?
Moi, Street Fighter 6. Et je me suis rendu compte que j'avais plus le niveau.
Ah ouais ?
c'est abusé. J'ai été à la Paris Games Week, il y a maintenant un mois, avec mon petit neveu. Et il m'a étalé sur tous les jeux.
Ah ouais, mais c'était sur quelle console ?
PlayStation 5. On est PlayStation 5.
Ok, d'accord.
Et ça a été vraiment...
Tu prends qui comme personnage ?
Ryu.
Ryu.
Basic. Basic. Et je me suis dit,
tu prends qui, toi, Aurélien, à Sylvester?
Moi, à la base, je prenais Ken pour être un peu funky, tu vois, parce que Ryu, quand même. Et sinon, mon personnage préféré, c'était Guile.
Ok, mais dis, tu prends qui, toi, à Sylvester?
Il y en a qui peuvent aimer Dalsim.
Oui, si tu le maîtrises, c'est pas mal.
Sur Super Nintendo, il est sympathique, mais sur les autres trucs, non.
Moi, je prends tout le temps Ken et Chun-Li. Chun-Li, elle a.
Ça envoie vite. Mais moi, ce que j'aimais bien avec Guile, c'est qu'il avait plein de mouvements un peu bizarres. Il avait des combos, genre de l'espace, un peu lutte.
Anaïs, tu prends qui, toi?
Quand j'étais petite, je prenais tout le temps Ryu aussi. Je pense que c'est le classique, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est le classique. La dernière BD ou dernier manga que vous avez lu, Anaïs?
En ce moment, je lis des scans de Vagabond. C'est pareil, c'est les samouraïs.
Magnifique.
Ouais. Apparemment, Julien est content.
Non, ça lit les scans, il faut acheter.
Ah, ça lit les scans.
Alors, toi, Julien, qui a un compte manga et qui adore les mangas, tu vas pouvoir nous régaler là-dessus.
Ouais. Moi, je peux recommander deux choses parce que là, en ce moment, je lis deux séries. Ascension de Shinobu Seguchi. C'est une série sur un homme solitaire qui veut gravir la face du K1 au Japon. C'est fabuleux, c'est prenant, c'est très poétique. Par exemple, quand le soleil se lève, il voit un corps d'orchestre jouer. C'est divin à lire et c'est sublime. D'ailleurs, il faut absolument regarder ce qu'il fait parce qu'il vient à Angoulême aussi cette année. Sinon, ce que j'adore, c'est Prisonnier Riku. C'est une série, c'est une dystopie où les pauvres et les criminels sont envoyés en prison et ils doivent construire des meubles pour les riches. Et il y a un enfant du nom de Riku qui a 13 ans qui est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il veut s'évader. Donc c'est un peu... C'est un peu de temps en temps nanardesque, un peu comme Fortress avec Christophe Lambert.
J'adore Fortress.
Ah, j'adore aussi. Mais et vous prenez le meilleur de Prison Break en même temps, c'est-à-dire la saison 1.
Ça me plaît.
Et c'est 38 volumes de pur plaisir.
Écoute, moi j'adore les trucs de prison et tout, donc il se peut que je sois séduit. Anaïs, le dernier objet culturel que tu as acheté?
Le Blu-ray de Babylon.
Oh, joli.
Parce que je pense qu'il n'est pas assez respecté cette année.
Moi je suis complètement d'accord avec Anaïs. Moi j'ai adoré Babylon. La fin, j'étais un peu sceptique, mais j'ai vraiment adoré Babylon. J'ai trouvé que c'était un film grandiose et je trouve que il est pas assez cité alors que c'était vraiment un film événement, je trouve.
Et la musique qui l'accompagne, génial.
Ouais, ouais, super. Cool. Julien, le dernier objet culturel que tu as acheté?
Moi, c'est un vinyle. C'est le vinyle de Sofiane Pamart, Noche. Et j'adore Sofiane Pamart et je me régale à chaque fois que je l'écoute aussi.
Donc Sofiane Pamart qui fait que du piano.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de voix, c'est juste du piano.
Non, c'est juste du piano.
D'accord. Et enfin, le ou la dernière artiste que vous avez suivi sur Insta, Anaïs?
Moi, c'est Johan Bourgeois, un chorégraphe. Vous avez peut-être vu les vidéos où il est sur un escalier, il tombe régulièrement, il remonte.
Ah oui, j'ai vu ça, il tombe sur un trampoline.
Oui, exactement. Mais il a plein d'autres concepts et il est génial.
Superbe.
Et moi, donc c'est l'auteur de Ascension, donc Shinobu Seguchi. Sur son compte, c'est 14 Mountains. Et il met beaucoup ses chiens. Donc moi, j'adore.
Quoi comme chien?
Deux petits caniches.
Deux petits caniches. Cernieux, les caniches.
Ouais, mais bon. Moi, j'adore les chiens. J'ai un chien, d'ailleurs. Ginette, le corgi. Plus beau chien du monde.
Ta race préférée de chien?
Tous les chiens gentils. Peu importe.
Mais ils sont tous gentils.
Ah, ils sont tous gentils.
Ils sont tous gentils.
Oui,
mais là ton chien, il est avec toi
Non, c'est mon ex qui le garde.
Ah ouais.
Vous avez une garde partagée?
On va partir sur une garde partagée.
Mais tu sais que je vois de plus en plus ça, des couples qui se séparent et qui ont une garde partagée de chiens.
Ah ouais, je connaissais même pas.
J'aurais dû demander d'ailleurs au docteur tout à l'heure comment ça se passe, les gardes partagées.
Ouais, parce qu'il a été maître chien, apparemment.
Oui, donc voilà, ça aurait été vraiment la question.
Il aurait pu dire, il aurait pu te répondre.
Oui, voilà. Raté, 200 balles.
Tu peux toujours le recontacter demain.
Je vais lui faire un petit DM.
Appelle-le, c'est 5 € la nuit.
Non, mais c'est vrai, Mehdi, t'es pas au courant, mais il y a plein de. En gros, et je trouve c'est assez logique parce que t'es avec ta copine depuis longtemps, vous prenez un chien ensemble, donc vous l'aimez autant, ce chien, et quand tu te sépares avec la personne, c'est relou de plus voir le chien, quoi. Donc il y a un truc de garde partagée. Après, faut accepter de revoir son ex.
Aucun problème, comme je dis, humainement je l'adore encore, on s'entend toujours très très bien, c'est juste l'amour qui s'est envolé avec le temps. Mais
il est bien,
il est bien.
Anaïs, ta race de chien préférée?
Le berger australien. C'est magnifique. J'avais ça quand j'étais
les beaux yeux bleus, c'est ça, les
ouais verrons même. Véron. Magnifique. Ouais.
C'est quoi déjà le terme de Véron? C'est vert et marron, c'est ça?
C'est quand t'as les deux yeux de couleurs différentes.
C'est pas du tout ce que je dis.
Moi je dis c'est une David Bowie. Je sais pas si ça s'appelait.
Une David Bowie.
Ah, c'est vrai.
Toi, Mehdi, des chiens que t'aimes bien, toi?
Les charpets.
Il adore les charpets. Ah oui, c'est vrai que t'es un fou de charpets, toi. Alors, les charpets, apparemment, c'est très compliqué au niveau de l'entretien. Parce qu'il y a plein de petites maladies qui viennent se mettre dans les plis. C'est l'info que je vous donne, je connais un peu.
C'est vrai que c'est tout
fou. Aurélien, t'as une race de chien préférée?
Non, je m'y connais pas trop en chien, mais je sais pas, un labrador.
Ah, c'est beau les labradors.
Ouais, mais Labrador, c'est un peu le. C'est marrant parce que c'est le chien qu'on veut tous.
Ouais.
Mais en même temps, on se dit, putain, j'aimerais être original quand même, tu vois. Mais bon, c'est quand même super, les Labradors.
Ouais.
Je suis plus fan des Golden.
Dans le regard.
Oui, bien sûr. C'est un peu les chiens stars, en vrai, tu vois.
Moi, sinon, j'aime bien les chiens qui ont le poil très ras. Parce qu'ils m'emmerdent pas comme ça.
Ah ouais. Mais toi, t'aimes pas les chiens, toi, ça se voit, toi.
Si, j'aime bien les chiens.
Les chiens, t'aimes pas les chiens, toi.
Non, les animaux, j'aime bien les animaux. C'est juste que j'ai jamais vécu avec des chiens. Donc, moi, j'ai eu des chats. Voilà, j'aime bien les chats.
C'est vrai que moi, je suis très team chat, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir un chien dans ma vie. Et peut-être un Basset Hound plus tard. C'est le chien de Colombo, là, avec les grandes oreilles, là.
Ouais. Ah.
Je trouve que c'est parfait quand t'as genre 50, 60, 70 ans. Tu prends le chien, il est tout peinard et tout. Tu vois,
ça, je pense qu'on aura un chien, nous, quand on sera très vieux.
Oui, on aura un chien, évidemment.
Ouais, moi aussi.
Mais d'ailleurs, petite info que je vous donne, donc j'ai un chat qui s'appelle Harpo, si vous me suivez sur Insta, vous le voyez assez souvent. Figurez-vous que ce chat a failli être le chat de Mehdi.
Ouais, c'est vrai.
Ah bon ? C'est l'info que je vous donne. En fait, ce chat, je l'ai trouvé à Montréal, donc chaton dans la rue. Et je l'ai trouvé, je crois que c'était en février, il faisait très très froid. Et Mehdi est venu me rejoindre à Montréal pendant un mois, je crois, dans mes souvenirs, pour visiter, pour profiter de la ville. Et en fait, le Harpo s'était pris d'affection pour Mehdi. C'est-à-dire qu'il dormait tout le temps sur Mehdi, il était tout chaton. Et jusqu'à ce que Mehdi se dise, mais j'adore ce chat, je vais peut-être le ramener avec moi à Paris. Et puis finalement, moi, comme à l'époque, quand je l'avais trouvé dans la rue, j'étais ouvert, pourquoi pas, aux adoptions. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis j'ai gardé Harpo et Harpo est devenu mon chat. Et quand Mehdi vient chez moi, Harpo est toujours séduit par la présence de Mehdi.
C'est vrai,
Mehdi ?
Ouais, c'est vrai.
Ouais, donc il s'en souvient. Quoi.
C'est ton pote.
La petite info que je vous donne. Écoutez. Est-ce que c'est pas une histoire très mignonne pour finir ce podcast?
Ah, c'est de l'amour, hein, c'est Love Actually.
Ah oui, bien évidemment. Est-ce que, alors en général, je demande toujours aux invités quelle est leur actu. Comment ça va se passer pour toi les prochaines semaines, Julien? Tu vas retourner à Montréal, c'est ça?
Non, moi je retourne à Montréal après le festival d'Angoulême.
Okay.
D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux, comme ça j'aurai une accréditation presse.
Allez, vas-y, c'est parti, fais ta pub. C'est quoi ton compte?
Alors, mon compte, c'est Alt Manga. Et,
Alt avec un H.
Alte Manga. Et sinon, mon actu, c'est que bah, je bosse dans le milieu du manga maintenant et je suis très heureux en tant que graphiste là-bas. Et,
super, donc tu vis ta passion. Hein.
Ouais, c'est ça.
Trop bien. Anaïs, comment ça va se passer là pour devenir prof alors?
Bah, passer le concours.
C'est quand le concours?
C'est une bonne étape. En mars.
Ouais, et alors ouais. Comment ça se passe là? Tu révises? C'est quoi? Comment ça se passe les révisions pour avoir un concours pour être
prof? Tu peux les faire de ton côté. Donc c'est ce que je fais. Je lis les livres, je les fiche et puis je verrai bien.
Ok, d'accord. Est-ce que tu es du genre à virer les élèves de ta classe s'ils font des bêtises?
Virer, je sais pas, parce que à côté, je suis assistante d'éducation dans un lycée. Donc je réceptionne les élèves virés de classe.
D'accord.
Je vois à quel point ça peut être compliqué.
Je te pose la question parce que j'étais dans la même classe que Mehdi au collège, et tu te souviens, Mehdi, que Monsieur Le Derrière, le prof de français, il nous prenait par le col et il nous sortait violemment de la pièce. Tu te souviens de ça?
Ah, c'était la violence, carrément.
Mais voilà, donc t'en penses quoi, ça
La violence moyenne, hein, finalement. Mais si ça devient insupportable et que tu peux pas faire ton cours pour tes autres élèves, les virer, oui.
Quelle académie que tu passes le concours sur quelle académie, là?
Dans les Hauts-de-France, à Amiens.
Ok. On avait aussi une prof qui s'appelait Madame Mathé, et elle nous tapait avec sa règle.
Oh là là.
Et vous, c'était
quoi, votre truc? Quelles années, quoi? Parce que
non, mais c'était dans
ça paraît tellement
ça. Non, c'était dans les années 90, dans le 93, quoi.
C'est comme ça que ça se passe, exactement.
C'est comme ça que ça se passe, c'était à la dure.
Bah oui.
C'était vraiment à la dure, quoi. Enfin bref. Écoutez, je referai les histoires de chiens pour terminer. Oui. On est parti là-dessus. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir, Julien et Anaïs. Chaque année, moi, je suis très heureux de faire cet épisode spécial Noël avec les abonnés. Je trouve ça trop cool. L'année prochaine, si vous voulez participer, c'est pareil. En décembre, je mettrai un sondage et après, je tirerai au sort. Justement, j'en parlais avec Anaïs et Julien, on me demandait comment je tirais au sort. Et ben, c'est à l'ancienne, comme notre collège, méthode à l'ancienne. C'est-à-dire que je scrolle, et j'arrête mon index sur un nom.
Dessus.
Et après, ça tombe sur vous ou pas. Et pour vous dire, à la base, c'était tombé sur d'autres personnes que vous, je vous l'ai dit, Anaïs et Julien, mais deux personnes qui ne pouvaient pas ce soir-là et qui étaient deg. Donc, vous avez eu de la chance, c'est tombé sur vous. Mais voilà, en tout cas, tout le monde peut... obtenir cette chance de venir, c'est un tirage au sort, voilà, tout simplement. Et j'étais ravi d'être avec vous. Vous avez prévu quoi pour les fêtes de Noël?
Y a mon frère qui habite aussi à Montréal, qui est revenu.
Okay.
Donc on va être en famille au complet. Ça fait 10 ans, on n'a pas tous fêté ça ensemble, mais ça va être génial.
Magnifique. Anaïs?
Ça fait 5 ans que je n'ai pas fêté ma Noël en famille, donc je vais aller en Corse.
Oh,
fêter ça sur la plage.
Tu viens de Corse?
Non, mais non. Ma famille habite majoritairement en Corse.
Superbe Noël. Ouais. Mehdi, toi, tu Noël de prévu?
En famille, avec ma fille.
Superbe, Aurélien.
Pareil, en famille, tranquille.
Ouais, moi, je serai tout seul.
Oh non.
Bon, ouais, si.
Non, eh bien non. Non, bien sûr que non.
I'm alone, sorry.
Non, mais n'empêche, pensez pour ceux qui seront seuls à Noël.
Ouais, bien sûr.
Parce que ça arrive, et je sais que ça peut être badant. Ça m'est déjà arrivé d'être seul à Noël, d'ailleurs, à Montréal.
Ouais, à Montréal aussi, ça m'est arrivé d'être seul.
Ouais. Et tu vois, quand on part vivre à Montréal, comme ça peut arriver, parce que moi, j'étais arrivé dans une période où je connaissais pas trop encore de monde. Mais tu vois, bizarrement, et ben, ça reste un super moment, tu vois. Parce que j'étais dans une ville que je connaissais pas vraiment. J'étais allé voir, je crois que je le dis en plus dans mon livre, j'étais allé voir The Wrestler ce soir-là. Il y avait juste deux personnes dans la salle. Puis je suis revenu chez moi, puis tout le monde faisait la fête derrière les vitres des appartements. Puis moi, je suis rentré tout seul et tout. Mais tu sais, il y avait un truc tellement hors du temps que c'était pas trop déprimant, quoi. Même si ça l'était un peu, quoi. Mmh. Toi, t'as vécu un Noël seul aussi.
Ah oui, ça va encore pas les ruptures.
Oh Julien, la légende.
En gros, c'est lui le bourreau des cœurs. Hein,
j'ai eu une rupture la veille de Noël et je devais aller chez sa famille. Du coup, j'ai mangé tout seul le jour de Noël et c'était horrible.
Bien fait.
Oh. Et on skie sur ce mot de la fin de midi. Et bah écoutez, nous on se retrouve. On va essayer de reprendre le rythme là de un podcast par semaine. Et d'ailleurs le podcast maintenant sortira. Alors j'avais mis le lundi matin. Mais en fait, vous aimez tellement le podcast que je vais le mettre le jeudi comme un podcast normal. Donc, il y aura un format 3 films, un format comme ici avec deux invités, un podcast, et ainsi de suite, on reprend la boucle, etc. Donc voilà, il y a plein d'invités très cool qui vont venir en début d'année. On se réserve la surprise. On vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Merci Julien et Anaïs d'être venus. Merci Mehdi et Aurélien. Et on se retrouve très très bientôt. Bye tout le monde.
Salut.
Merci. Salut.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.